Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court. Tous les soirs, une conversation qui dure une heure avec les artistes. Ce soir, Julie Duclos est avec nous.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, taper.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court.
Marie Richeux avec Julie Duclos.
On dirait qu'on pousse la porte de nos rêves, celle des inconscients. On dirait que l'on n'entre là que si l'on franchit un seuil effrayant. Toute l'eau du déluge ne viendra jamais à bout de ce qu'un amour déçu peut laisser comme tache sombre. Et dans votre mise en scène de Péléas et Mélisande, on se tient au cœur du sombre. Pourtant, tout le monde voudrait pouvoir voir. Seulement, quelque chose se dérobe à l'infini et c'est le mystère, c'est le tragique, c'est aussi toute la beauté de nos existences. Dans la pièce de Maeterlinck, créée à Paris en 1893, on entend toujours au moins 2, 3, 4 étages de sens dans une phrase prononcée. De même, vous figurez ce château d'Allemonde comme sur pilotis, une terrasse presque abstraite, tendue entre un sol concret et un ciel aussi spirituel qu'encombré. Le langage y effectue un travail caché que l'on ne soupçonne pas, un travail souterrain, pour citer le texte. Péléas et Mélisande est visible en ce moment aux ateliers Berthier du Théâtre Odéon à Paris, c'est jusqu'au 21 mars. Ensuite, on pourra le voir, le spectacle au Célestin à Lyon du 25 au 29 mars, les 2 et 3 avril à Saint-Quentin en Yvelines. Soyez la bienvenue, Julie Duclos.
Merci beaucoup.
On va entrer dans la pièce presque comme au théâtre.
Qui est là? Pourquoi venez-vous m'éveiller? Sortez par les petites portes! Sortez par les petites portes! Il y en a assez!
Nous venons laver le seuil, la porte et le perron! Ouvrez donc! Ouvrez donc!
Il y aura de grands événements!
Il y aura de grandes fêtes! Ouvrez vite!
Ouvrez donc! Ouvrez donc!
Attendez! Attendez! Je ne sais pas si je pourrai l'ouvrir! Elle ne s'ouvre jamais! Attendez qu'il fasse clair!
Il fait assez clair au dehors, je vois le soleil par les fentes!
Voici les grandes clés. Oh, comme ils grincent les verrous et les serrures!
Aidez-moi! Aidez-moi!
Nous tirons!
Elle ne s'ouvrira pas.
Elle s'ouvre lentement!
Comme elle crie, elle éveillera tout le monde!
La première scène donc de l'acte premier de Péléas et Mélisande, ce n'est pas rien de consacrer une ouverture de spectacle, et pour vous et pour Maeterlinck, à une porte qu'on peine à ouvrir, Julie Duclos. Pour vous, et peut-être après l'avoir entendu tant et tant de fois, vous avez l'impression que c'est une porte qui s'ouvre difficilement sur quoi ?
Bah effectivement, il est toujours question d'ouverture, de fermeture, de porte, de seuil. Il est question de seuil aussi, donc comme si on était toujours à l'aube de quelque chose. Et c'est vrai que c'est assez beau, enfin, de commencer une pièce. Ça commence comme il y a des effets de préméditation, puisqu'on nous dit qu'il va y avoir de grands événements, de grandes fêtes. Et on ne sait pas encore que la scène suivante, c'est la rencontre de Golo et de Mélisande. Alors est-ce que c'est ça l'événement? J'ai l'impression que c'est comme si c'était une pièce aussi où on court toujours après l'événement. On chercherait toujours l'événement, on sent bien, comme on dirait, l'événement qui va transformer nos vies, ou où ça se passe comme ça, comme s'ils étaient toujours à l'aube de la chose essentielle pour eux. Donc oui, c'est évidemment une porte vers l'inconnu. Et puis, moi je l'appelle le prologue, même si c'est la scène 1, mais je trouve qu'il a une valeur de prologue, puisqu'il y a un côté avant que tout ne commence. Effectivement, il est mystérieux, parce qu'on ne sait pas si on est dedans ou dehors. Enfin, c'est complètement étrange. Donc c'est ça aussi qui a fait que j'ai eu envie de le traiter de manière manière sonore et visuelle, pour comme tout de suite poser le là, on pourrait dire, d'une lecture qui a à voir avec une lecture de l'inconscient, quoi, d'une chose un peu explosive et chaotique et pas uniquement réaliste, quoi, on pourrait dire.
Et d'ailleurs, vous dites donner le là, mais finalement, c'est presque le traitement le plus complexe, presque le plus dense d'un point de vue de ce que peut la machine théâtrale dans votre mise en scène de Péléas et Mélisande, parce que il y a de la musique, il y a du son, ça parle beaucoup plus fort que ça ne va parler ensuite. On est dans quelque chose qui est, quand je dis un seuil effrayant, c'est aussi avec le côté excitant de cet effrayant, mais c'est pas rien, quoi. On entre, ça nous accueille d'une certaine manière.
Oui, effectivement, c'est vrai que ça commence par les trois, et puis ça va aller vers une explosion. Donc c'est quand même, effectivement, j'avais cette envie de ne pas commencer forcément doucement. Mais peut-être que ça a à voir avec la prémonition, puisqu'ils sont toujours dans... Qu'est-ce que c'est que cette fin qui nous attend? Qu'est-ce que c'est que d'être au bord d'une explosion, d'un effondrement? Elle est où la bombe? Enfin, ça va. Il y a quelque chose un peu de ça. Et effectivement, il y avait cet outil aussi du cinéma, puisqu'en réalité, ça commence... Puisqu'il y a un écran, on ne dévoile pas tout de suite la scénographie, ça commence par du cinéma. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on est immergé. On sait bien que le cinéma a cette capacité-là d'immerger aussi fort le spectateur par le son et par l'image, quoi. On pourrait dire de transporter, puisqu'à la lettre, au cinéma, c'est le contraire d'être un spectateur de théâtre. Hein. Quand on est au cinéma, on est presque plus dans le siège où on est dans ce qu'on voit et dans ce qu'on entend. Donc peut-être ça permettait ça aussi, quoi. Comme un bloc de sensations. Enfin, je pouvais avoir en tête aussi bien les histoires du cinéma de Godard, que j'aime beaucoup, qui sont, voilà, un pur montage aussi, entre le son, l'image et les connexions que ça crée à partir de là.
Parce qu'il faut dire que si vous vous en tenez à la lettre dans ce prologue scène 1, acte 1, en revanche, vous explosez toutes les lectures et on a des images qui nous emmènent dans des territoires mentaux, imaginaires, inconscients. On voit des barbelés, on voit des murs. D'un seul coup, ce seuil de la porte dont il est question dans le texte de Materlinck, il devient plein de choses dans notre contemporain, vraiment dans notre présent. Et puis après, vous nous laissez avec ça. Et ensuite, on arrive dans ce château qui est certes abstrait, mais qui est quand même un château.
Tout à fait, qui est un monde concret, c'est ce que je voulais, effectivement, avec un type qui rencontre une fille dans la forêt, même si tout ça est déjà un peu étrange. C'est un prologue inconscient, ça travaille sur l'inconscient, et l'écriture de Materlinck travaille en permanence sur l'inconscient, c'est une écriture souterraine, sur l'invisible, donc sur tout ce qui, au-delà de ce qui est dit, au-delà des mots, se trame, et donc ça crée des connexions bizarres entre les êtres, et effectivement, notamment ce paysage d'effondrement qui est là, mais dont Materlinck ne fait pas toute une affaire. C'est-à-dire, effectivement, il distille lui aussi dans son écriture des éléments de ci, de là, et c'est comme une écriture de à qui veut bien l'entendre, on pourrait dire, en permanence. Donc, d'où ces images qui sont très entrecoupées, rapides, qui sont des images, oui, d'actualité, aussi bien de climat, de choses dégénérescentes, aussi bien un animal, comme ça, là, qui rôde, enfin, comme des images d'une forme d'être qui sont dans une forme d'attente aussi. On a cherché ça avec le vidéaste Quentin Vigier, comme ce serait quoi l'espèce d'attente de la catastrophe, ce serait quoi comme type d'image.
Et la catastrophe, comme vous le dites, elle arrive après. Est-ce que c'est une catastrophe ou est-ce que c'est un bonheur, la rencontre entre Mélisande et Golo? Est-ce qu'on peut dire en quelques mots à quoi tient, on va dire, l'intrigue de Péléas et Mélisande?
Oui, elle est très simple. Golo rencontre Mélisande dans la forêt, elle est en larmes, il ne sait pas d'où elle vient, elle vient de loin, elle a vécu des choses terribles, on ne sait pas quoi. Il tombe amoureux d'elle et il va l'épouser, il va la ramener au château de son grand-père, le roi Arkel. Il se trouve que Golo a un petit frère qui s'appelle Péléas, et donc Péléas et Mélisande vont tomber amoureux l'un de l'autre. Donc on pourrait parler d'un trio amoureux, et donc va être à l'œuvre et cet amour de Péléas et de Mélisande, et la jalousie de Golo, voilà, jusqu'où va-t-elle aller? On pourrait dire que ça tourne autour de ça, de cette triangulaire et de cet amour si singulier de Péléas et de Mélisande. Cet amour, on pourrait dire qu'on n'arrive pas à attraper.
Eux non plus.
Et que pendant eux-mêmes, longtemps, quand même. Peut-être, tout à fait. Ils se comportent très bizarrement l'un vis-à-vis de l'autre. On n'est pas dans l'écriture du coup de foudre, et puis, enfin, disons que ça prend des voix étranges. Et Golo lui-même se questionne sur ses voix. quelque part. C'est-à-dire, mais de quoi est fait ce rapport? Et je crois que c'est ça aussi qui le rend fou, quelque part. Donc voilà, ça tourne autour de ça. Et on pourrait dire d'une histoire tout à fait banale en soi, mais effectivement, l'écriture de Maeterlinck est tellement singulière, avec toutes ses suspensions, ses répétitions, une poétique aussi qui est là, très forte, une spiritualité qui fait que ça rend l'histoire plus... Comment dire, les choses ne tiennent pas uniquement dans les faits. Il y a une élévation comme ça, permanente et très mystique, on pourrait dire.
Le plateau est pour une grande partie du temps, sinon la totalité, plongée dans une obscurité, Julie Duclos. Et pourtant, je le disais en introduction, le motif du regard, des yeux, de l'aveuglement, de la lumière, de percevoir, de réussir à voir, voire de guetter, des pieds est quasiment permanent. Qu'est-ce qui a fait le choix de cette obscurité pour vous ?
Bah effectivement, c'est dans le texte. C'est-à-dire, c'est presque à l'épreuve des répétitions qu'on se dit, ah oui, on est un petit peu tout le temps intérieur nuit, quoi. J'exagère. Mais effectivement, on est tout le temps dans des obscurités. C'est vraiment une pièce pour la lumière. Et on est dans des obscurités ou dans la question de la frontière entre l'ombre et la lumière, comme si c'était des espaces où la vérité pouvait émerger, où l'amour pouvait se dire. Péléas et Mélisande sont tout le temps dans ces questions d'aller dans l'ombre, de rester. Elle dit, laissez-moi dans la clarté. Il dit, viens dans l'ombre. Comme si c'était, voilà, comme si ça définissait presque leurs états d'être ou même leur destin. Donc on a fait tout un travail avec Mathilde Chamou à la lumière qui était très important, à la fois d'être dans des atmosphères, on pourrait dire, il y a un fond réaliste, puisque comme vous l'avez dit, la scénographie, il y a un château, je sais pas quoi, s'il y a un lit, il y a une lampe de chevet, enfin des éléments comme ça, mais il y a un espace, on pourrait dire, un peu cosmique aussi, qui fait que voilà, la démarche en lumière forcément était et de sentir un clair-obscur ou de manière réaliste, et en même temps de dépasser ça aussi pour être dans une écriture de la sensation. Je crois, enfin, ça nous a demandé à tous d'être très intuitifs en réalité aussi, pour sentir à quel moment c'est nécessaire de tomber totalement dans l'obscurité ou de jouer avec le noir total. À un moment donné, les deux frères vont dans les souterrains. C'est une sorte de descente aux enfers, comme ça.
Et un texte incroyable, hein, qui n'arrête pas de dire on va dans la grotte, on va dans les souterrains, on va voir là où le travail est invisible. Enfin, ça pourrait être une définition parfaite de la descente dans l'inconscient, quoi.
Oui, tout à fait. Et puis, puisqu'il fait noir, il y a du meurtre dans l'air, évidemment. Mais dans l'air, hein, c'est toujours un peu comme ça, dans l'air. Et donc, voilà, comment traiter ça aussi bien après ça, la grande lumière, parce qu'en même temps, il cherche la lumière. On n'est pas, en réalité, tout le temps dans l'obscurité, enfin disons qu'on sait bien qu'il faut, pour avoir l'obscurité, il faut aussi les appels vers la lumière. Et donc c'est très beau que sorti du noir, Péléas dit « Ah, je respire enfin !» Et d'un coup il se met à sentir l'odeur des roses, l'odeur de la pluie. Enfin voilà, il est très poreux comme ça, et donc d'un coup il peut y avoir beaucoup de lumière. Enfin voilà, c'est un enjeu effectivement, permanent la lumière.
Autre choix pour la mise en scène et la scénographie, on finit comme ça de planter un peu le décor, Julie Duclos, ce que j'ai cru, moi, être des graviers. En tout cas, on va dire, quel que soit ce que vous avez mis sur le sol et sur le plateau, cette chose qui fait que quand on marche, ça s'entend.
Oui.
Et que ça crisse et que quelque chose, je sais pas, ça crée quelque chose d'un point de vue sonore.
Oui, c'était ce sol. On savait avec Hélène Jourdan, la scénographe, qu'on voulait un sol. Je voulais cet espace à l'avant-scène qui puisse être un bout du jardin. Un jardin, c'est relatif parce qu'on n'a pas mis de la pelouse. Effectivement, c'est un sol noir, donc en même temps un peu indéfini, un peu cosmique presque, on pourrait dire.
Ah oui, ça pourrait être la Lune.
Oui, c'est ça, oui, un peu comme sur une planète. Ça peut faire penser à de la Terre, mais ça n'en est pas tout à fait. J'aime bien ce côté indécis du sol, qui est à la fois comme une surface, qui nous laisse en fait en imaginer plusieurs. Et donc effectivement, c'est pas du gravier en réalité.
Peu importe.
Peu importe, mais effectivement, j'aime bien qu'il soit plusieurs choses à la fois. Et c'est vrai que oui, ça fait sans doute... un peu du bruit quand on marche dessus, mais pas tout à fait comme des cailloux. Enfin,
c'est un sol indéfini.
Oui. Oui.
On écoute la voix de Maeterlinck en 1949.
Il n'est plus question de bulles bleues. Les bulles, aujourd'hui, sont noires. Il est certain que tout va de mal en pis. Nous avons roulé au plus bas de la côte, après quoi, il n'y a que l'abîme d'où l'on ne revient pas. La hargne, la cupidité, la malhonnêteté, la paresse, l'envie, la haine engendrée par la guerre sont au comble. Mais au fond, ce ne sont que des maladies de notre renaissance. Ne désespérons pas. La France a connu de plus dangereuses épreuves. par exemple avant Jeanne d'Arc, puis la fin de la Révolution française, et surtout la fin de la Fronde, où tout n'était plus que putréfaction. Il s'agit avant tout d'assainir sa morale électorale, qui subit les désastreuses influences de mortifères utopistes, qui voudraient remplacer le paradis où nous vivions par l'enfer où ils agonisent. Mais la France a toujours aimé les miracles, et les miracles ont toujours aimé la France. C'est toujours un miracle qui l'a sauvée. Plus grand est le péril, plus sûr est le miracle. Elle le fera demain.
Eh bien, vous voyez, vous disiez que dans le texte, Maeterlinck attendait l'événement. Ici, en 1949, il fait des promesses pour la France, prise de parole assez mystérieuse, assez politique, mais qui, dans le début, en tout cas, usent tellement de métaphores, descendre aux abîmes, ce sont la maladie et les maladies de notre Renaissance. Tout ça, d'une part, pour entendre le document sonore que constitue cette archive de 1949, c'est assez fou, Julie Duclos, et aussi peut-être pour que vous nous parliez, si vous voulez bien, de votre rencontre avec ce texte-là, parce que s'il y a bien quelque chose qui se passe et qu'on sent, c'est que vous avez voulu être avec ce texte presque comme si c'était des petits bouts d'objets très concrets, quoi. Il y a vraiment une rencontre concrète avec ce texte-là.
Oui, c'est étonnant de l'entendre parler. Je ne l'avais jamais entendu parler, donc je ne pensais pas du tout qu'il parlait comme ça. C'est très étonnant. Et d'ailleurs, il a ce mélange, lui, pour avoir lu des écrits comme ça sur sa vie, de choses très concrètes en même temps. C'était, il mangeait à heure fixe, il prenait son vélo, enfin, il écrivait à heure fixe. Il y avait un espèce de mélange, mais je trouve qu'il est propre à son écriture, qui est à la fois, et là, il parle de manière très imagée, beaucoup une immense profondeur et comme ça, une dimension mystique, et en même temps, il y a une dimension très concrète et simple de son écriture. Et je crois que c'est ça qui fait sa force. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a frappée en le relisant aujourd'hui, qui a fait que je pouvais même le lire dans ma contemporanéité, c'est-à-dire que ça pose pas de question d'adaptation. On n'est pas en train de se dire, mais alors oui, est-ce que ça a du sens de le monter aujourd'hui ou pas? Il y a plutôt une espèce d'évidence quand on le lit. Bien sûr, la dimension poétique est frappante. Je crois que si on n'est pas touché profondément par ce qu'on lit, ou ému aux larmes par certaines phrases, c'est pas la peine de le monter, en quelque sorte. Je veux dire, ça constitue presque un repère, ça. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans un projet? C'est plein de choses. Et puis on y réfléchit. Voilà, donc c'est évidemment qu'il y avait quelque part un défi à la mise en scène et qui m'attirait quelque part. Au bout d'un moment, on se dit, bon, ça va être très compliqué, mais allons-y, on verra bien. Mais le repère premier, c'est l'émotion qu'on a quand on lit certaines phrases comme « Oh, je n'ai pas de courage, je n'ai pas de courage », avec la didascalie, juste après, elle s'enfuit dans la forêt. Bon, c'est des choses comme ça, quoi.
Où je pense à cette phrase qui est tellement belle aussi, qui est tu as du sang sur le front. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai traversé un buisson d'épines.
Oui, 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 on sait pas.
D'ailleurs, on sait pas. Est-ce qu'il ment, sait jamais en fait.
Complètement. C'est jamais résolu. Oui, oui. En ce sens, c'est pas du tout une écriture psychologique.
Il y a les faits, quoi.
Oui, c'est pas les raisons sont. Parce que quand on dit psychologie, il faudrait toujours se mettre d'accord qu'est-ce qu'on entend là-dedans, mais disons que les raisons sont toujours vastes et mystérieuses et prennent des chemins complexes, quoi. On peut pas... L'écriture est à la fois simple, mais en même temps, il faut pas vouloir la simplifier non plus. C'est bien d'aller à sa rencontre aussi par... Oui, en prenant des chemins métaphoriques ou en n'ayant pas peur d'aller dans ces zones, on parlait d'inconscient tout à l'heure, ces zones obscures de l'âme et des rapports, ça paraît évidemment nécessaire, quoi, pour l'aborder.
Quand vous dites « je savais que ça allait être compliqué, je savais que c'était aussi un défi de mise en scène », c'était quoi vos prémonitions de difficultés, Julie Duclos?
Déjà, l'espace. C'était évident quand on lit la pièce. Enfin, on a plus l'impression qu'il a écrit pour du cinéma, par exemple, ou pour du cinéma, on se poserait pas la question. On est dans une forêt, puis après on est dans la chambre, et puis après on est dans un jardin, après on est dans une grotte. Bon, c'est facile, on saute d'un espace à l'autre au théâtre. À moins qu'on veuille monter ça dans un espace vide, complètement pur, mais comme c'était pas mon cas ou mon rêve, d'un coup ça pose des questions très concrètes d'espace. Et puis même dans certaines scènes, que ce soit la scène des cheveux, la dite scène des cheveux du balcon, il y a des éléments, même dans le texte, très concrets. C'est-à-dire où la scène de la fontaine, elle veut plonger ses mains dans l'eau, mais c'est pas profond, mais elle peut pas l'attraper. Donc il y a des éléments même physiques où ça pose de toute façon la question de la représentation. Et je sentais bien qu'il fallait travailler plus sur la question de, bien sûr, de la représentation, mais de l'immersion. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de tout représenter. On n'allait pas créer un espace avec ici la forêt, ici la grotte. Donc, c'était comment, avec le secours du son, de la vidéo, de la lumière, enfin voilà, de tous ces corps de métier aussi, comment immerger l'acteur et surtout immerger le spectateur dans ces espaces-là, qui sont fondamentaux chez Méterlinck, qu'on ne peut pas faire comme si on était ailleurs que dans des souterrains, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Même. Et en même temps, on est aussi un peu ailleurs tout le temps.
Oui, tout à fait. De par cette, bien sûr, mais j'avais besoin des deux. Il fallait les deux. Il fallait aussi pour moi rendre palpable, parce que je crois que la force de l'écriture passe par là aussi, par le fait que c'est des situations de la vie aussi, c'est-à-dire aussi descendre dans des grottes ou se parler près d'un lit, c'est pas pareil. Être à l'intérieur du château ou être dehors, c'est pas pareil. Toutes ces choses-là. Donc, et puis il y a des ellipses tout le temps. Donc on quitte un personnage et on le retrouve, le même personnage, sauf qu'aussi bien on sent que 6 mois ont passé ou d'un coup c'est l'été. Donc ça accumule des questions où on sent qu'il y aura à développer des choses en fait personnellement, comme faire un geste aussi poétique avec ça, mais pour être au service de l'œuvre évidemment, enfin en tout cas tel être à l'endroit de là où l'œuvre nous parle. C'est une œuvre qui suscite des visions, donc on sait pas tout quand on commence, mais en même temps c'est bien d'avoir un fond comme de sensations ou de pressentiments pour se lancer, et puis le reste on se dit bon bah la scène des cheveux, on verra bien comment on fera, on verra bien.
Vous la découvrez cette œuvre maintenant, ou c'est une rencontre qui date d'un certain temps et que vous avez refaite pour ce travail-là, Julie Duclos ?
C'est une rencontre que j'ai refaite. Je l'avais travaillée comme comédienne puisque je viens du Conservatoire National à Paris, et donc j'avais tenté au moment du concours, j'avais passé Mélisande. Donc voilà, j'avais joué une scène, j'en avais connaissance à mes 20 ans, mais je l'avais pas relue, et surtout je m'étais pas immergée aussi dans d'autres pièces de Méterlinck. Et puis avec la maturité, on pourrait dire aussi, il y a quelque chose qui frappe, quoi.
Ouais. Est-ce que vous diriez que ce qui vous intéresse le plus ne se tient pas nécessairement dans l'amour ou la passion, ou je ne sais pas comment on l'appelle, qui frappe Péléas et Mélisande ?
Ben oui, parce qu'effectivement, c'est tout le temps déjoué, donc ça a des contenances, hein, même comme écriture ou comme spectacle, enfin au sens où on peut s'attendre à autre chose. Si on est comme Golo, quoi, et qu'on veut qu'il se passe comme ça tout le temps quelque chose, puisqu'il dit mais enfin il se passe rien, mais enfin que se passe-t-il ? On peut être un peu, on sent bien que ça connecte sur un ailleurs, quoi, ça ouvre sur un ailleurs. Donc il faut comme faire le voyage, comme on dirait en hypnose presque. Enfin, ça me fait penser à ça. Donc oui, évidemment que bien sûr l'histoire, cette histoire de désir et cette histoire d'amour, oui quand même, d'amour à mort, d'amour fauché, de jeunesse aussi qui est fauché. Je crois que c'est quand même le grand tragique dans la pièce, mais qui nous renvoie au tragique de la vie, enfin qui nous renvoie toujours à une sorte de tragique de l'existence en fait, dont nous sommes faits tous, et on est plus ou moins connectés à ça, et heureusement on n'y pense pas à chaque instant, mais au fond il parle de ça, il ne parle que de ça quand même, Méterlinck, tout le temps, même quand on lit Le Trésor des Humbles, c'est tout le temps fait de ça, quoi.
Oui, vous disiez, Julie Duclos, j'ai finalement aussi lu d'autres pièces de Méterlinck, comme si vous aviez épaissi un peu l'univers pour nourrir cette mise en scène de Péléas et Mélisande.
Oui, c'est vraiment un monde. On se rend compte quand on que j'ai pas lu tout son théâtre, bien sûr, mais que ce soit Malène ou Intérieur ou L'Intruse, c'est comme s'il y avait des motifs à l'intérieur des pièces qui circulent. On pourrait dire comme tout auteur, hein, chaque auteur a ses motifs. Mais effectivement, chez Méterlinck, on voit que la question de la mort, elle est là tout le temps. Elle est là tout le temps. C'est pas toujours l'amour, mais la question de la mort, elle est là tout le temps, par contre.
Comme quelque chose qui menace ou comme quelque chose qui est juste là et qui régit les existences?
Oh bah c'est les deux, c'est parce que c'est là, ça crée une espèce de menace. Oui, ils sont toujours, il y a toujours une mort à venir, quoi, une mort ou une mort dont on sent bien que ce sera bientôt, mais on ne sait pas bien quand. Et c'est ça qui crée cette espèce d'inquiétude. J'ai l'impression que les personnages sont souvent dans une forme d'attente comme ça. Il y a ça dans L'Intruse, ils sont réunis et tous dans une pièce et il y a une inquiétude. Je crois que c'est un mot qui pourrait qualifier Méterlinck. Oui, il y a une inquiétude permanente.
D'ailleurs, c'est aussi comme ça que commence Péléas et Mélisande, quand les deux êtres se rencontrent, Golo et Mélisande, dans la forêt, qu'elle pleure, qu'il lui est arrivé manifestement des malheurs qu'on ne sait pas. Elle pourrait être Mélisande de Maeterlinck, elle pourrait être une femme enfuie, une femme qu'on a violentée, elle pourrait être une femme réfugiée dans la forêt, parce que la forêt, vous le disiez, Julie Duclos, j'ai aussi été en mesure de lire ça avec ma contemporanéité. Bah, aujourd'hui, les gens qui vivent dans la forêt sont les personnes qui ont dû quitter tout pour pouvoir éventuellement vivre des petits bouts d'existence malmenée en Europe. Est-ce que vous diriez que cette inquiétude, elle est aussi celle face à l'étrange, voire à l'étranger ?
Bien sûr, elle est tout ça. Du peu qu'on sait d'elle, de Mélisande, elle est tout ça. Il y a elle dit qu'elle vient de loin, donc de toute façon, il y a une figure d'exil. C'est très archaïque de se retrouver. C'est des situations archaïques, mais qui existent dans le monde, c'est pas seulement dans les contes, en fait. De se retrouver en fuite ou de se retrouver, elle n'a plus rien, mais elle préfère en même temps. Elle veut pas le suivre au début. Hein. Elle dit non, je reste ici, mais elle commence à avoir froid. Alors quand même, bon, qu'est-ce qui fait qu'elle va le suivre ? Elle sent qu'il la sauve. Et bon, mais c'est très archaïque comme situation. Donc oui, bien sûr, elle est l'étrangère, elle est une figure d'étrangère et d'étranger, puisqu'après, c'est ce qui va créer comme une sorte de cellule de crise entre Arkel et Geneviève, ça commence comme ça, ils disent quand même, enfin, une inconnue trouvée le long des routes, il a quand même, qu'est-ce que c'est que cet acte ? Comme si
Golo... C'est le fameux grand-père et sa femme.
Oui, tout à fait, oui, et ils reçoivent une lettre de Golo, et Golo était censé se marier avec une princesse, ça devait régler des haines et des vieilles guerres, et d'un coup, il fait comme ce coup de folie, on dirait. C'est vécu comme ça, sur ce mode-là. Donc, elle est bien celle qui
arrive. Qui nous ramène à la maison.
Exactement. C'est ce que dira Geneviève, la mère, oui. Qui va-t-il introduire ici une inconnue trouvée le long des routes ?
En ces temps de virus, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. On peut vraiment dire que le corps de cette femme, le désir qu'elle crée autour d'elle, auprès de plein de personnes, finalement contamine le château d'une certaine manière.
Oui, bien sûr. C'est comme si quelque part, au fond, ils savent que ça peut... D'ailleurs, Arkel va dire dans cette même scène, il n'arrive peut-être pas d'événements inutiles. Nous revoilà sur la question de l'événement. Donc au fond, ils savent bien que ça fait événement et que ça va porter des conséquences ou que ça va... Et d'ailleurs, Péléas arrive à ce moment-là et dit « j'aimerais partir ». Quoi. Certes, il veut rejoindre un ami malade, mais il veut partir quand même, ça commence comme ça. Donc on a l'impression que ça avant même que les choses n'arrivent, tout le monde est secoué par l'avenir.
Mais comme un oracle, par exemple, vous diriez, comme quelque chose qui fait qu'on annonce...
Oui, je crois qu'il y a dans l'écriture de Maeterlinck, de même, il y a des effets de boucle, donc il y a des effets de prédestination ou de pressentiment, ou de... Oui, je crois que... On peut travailler avec la question du pressentiment. On connaît ça dans la vie. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, on peut dire bêtement, je sais pas, je le sens pas. Si on se connecte à des choses comme ça, ou d'un coup, je sais pas, on des actes... oui, parce qu'il y a des élans, ça commence par des élans. Cet élan fou de Golo vers Mélisande, Péléas qui veut partir. Enfin, on a l'impression que toute la famille, tout va à volo. Il n'y a plus qu'Arkel pour dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Tout va vers cet effondrement comme ça.
Oui. Et la folie progressive de Golo, qui sent bien, même sans pouvoir le nommer, même sans pouvoir le définir complètement, que quelque chose se tisse de très fort entre Péléas et Mélisande. Et là, il va être pris, je disais tout à l'heure, du désir absolu de vouloir voir, mais aussi de vouloir savoir, notamment grâce à la figure d'un petit garçon qui lui sert de quoi, Julie Duclos ? Qui lui sert d'œil qui pourrait franchir les barrières que lui ne peut pas franchir ?
Oui, Golo, qui effectivement... devient de plus en plus fou parce qu'il commence par surprendre. Hein. Il les surprend, il entend, il dira à Péléas, j'ai entendu ce qui s'est dit. Donc on a l'impression, c'est un cheminement, hein. C'est vraiment un processus qui va vers la folie. On pourrait
d'intuition
dire.
Aussi. Là, on
tout dit. À fait. Et comme si, presque on pourrait dire, comme s'il n'avait pas les outils, comme quelqu'un qui sent qu'il... Ça lui échappe, quoi. Et il n'a pas les outils pour le comprendre. Donc, effectivement, il y a cette scène, qui est une longue scène, d'ailleurs, dans la pièce, où il va questionner l'enfant, quoi. Comme un long interrogatoire, en quelque sorte. Et il y a toujours un peu des enfants dans Maeterlinck, toujours. C'est la figure, je sais pas, de l'innocence et peut-être de la vérité, puisque c'est ce mot qui est répété tout le temps, trois fois. La vérité, la vérité, la vérité. Péléas va le dire, Golo va le dire à la fin, dis-moi la vérité, et Mélisande va le répéter comme en ricochet, la vérité, la vérité. Donc je ne sais pas si l'enfant est la voix de la vérité, mais effectivement il va dire ce qu'il voit, à savoir pas grand-chose. C'est-à-dire, il va dire oui, ils regardent la lumière ensemble, elle est pâle, elle est pas, il va juste dire des choses comme ça. Et donc forcément, ça rend fougolo parce que c'est pas concret. On pourrait dire alors que lui, sans cesse, renvoie.
Est-ce qu'ils s'embrassent?
Voilà, où se sont-ils embrassés? Il a besoin de. Et l'enfant va confirmer d'ailleurs, puisqu'il va embrasser son père sur la bouche. Dans toute son innocence, puisqu'après lui dit, oh, votre barbe, elle pique. Évidemment, il y a de l'innocence là-dedans, c'est ça qui est terrible, quoi. Mais bien sûr, oui.
Il y a aussi cette idée que ce qui est terrible aussi, c'est la destruction que s'inflige Golo dans sa jalousie, qui le mène à une forme de mort, lui
bien
aussi.
Bien sûr. Oh bah, puis très concrètement, j'ai envie de dire, sans révéler la fin, mais je veux dire, il y a beaucoup de morts dans tout ça, en fait, chez tout le monde. Il va terminer en disant, c'est moi qui vais mourir. Est-ce qu'il va se suicider? J'en sais rien, mais oui, bien sûr. Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Julie Duclos.
C'est l'orchestre de Boston qui, sous la direction de Seiji Ozawa, joue la mort de Mélisande de Gabrielle Fauré, Julie Duclos. J'ai failli lire un petit peu des œuvres complètes que j'ai devant moi de Maeterlinck et la fin, mais j'ai pas osé. Non, mais je vais juste résumer, c'est tellement beau. En fait, ils sont penchés au-dessus de Mélisande et ils disent « Mais non, vous voyez, elle est pas en train de mourir, elle respire encore, regardez, elle tend les mains et elle a les yeux pleins de larmes et il faut laisser son âme s'en aller seule. » C'est très entremêlé parce qu'elle est en train de donner la vie et elle est très probablement en train de mourir. Et je trouvais que l'archive qu'on entendait tout à l'heure, toute politique éventuellement réactionnaire qu'elle fut en 1949, disait cela. Ce sont les maladies de la Renaissance. Et je trouve que le fait que cette pièce se termine sur une femme qui meurt en donnant la vie, fait aussi que jusqu'au bout, tout est entremêlé. L'idée qu'on est, qu'on meurt, qu'on arrive à la lumière, qu'on aille dans l'obscurité.
Oui, complètement. Effectivement, ça se termine là-dessus, sur, on pourrait dire, le cours des choses, quoi. Mm. La dernière phrase, c'est au tour de la pauvre petite, ce qui est terrible en même temps. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une forme de filiation, comme ça, enfin, de cycle. C'est une histoire de cycle. Et c'est pour ça qu'on aurait presque l'impression que la pièce se termine et puis on la rejouerait du début, quoi. Il y a une chose un peu folle, hein, comme ça, je trouve, puisque même si on regarde dans la généalogie de cette famille, on peut presque imaginer que la même chose, puisqu'il va être quand même question de fratricide, enfin, a eu lieu sur la génération au-dessus. Enfin, il y a des éléments comme ça, cycliques, un peu étranges chez Maeterlinck. Mais effectivement, la vie et la mort, elle a donné la vie et elle meurt. Et en même temps, c'est pas dans le cours des choses. C'est ça qui est tragique aussi, c'est qu'elle meurt toute jeune et qu'il dit elle est là, on dirait la grande sœur de son enfant. Et je pense que c'est ça qui est bouleversant aussi, évidemment. C'est que c'est quand même Arkel, c'est-à-dire le vieux de la famille, quoi. Le plus vieux qui est en face d'une toute jeune femme qui meurt.
Et ça fait quand même de cette fin aussi quelque chose de sacrificiel, c'est-à-dire que cette jeune femme qui est entrée avec, on l'entendra tout à l'heure dans un très beau passage du texte, mais avec quand même le visage d'un enfant joyeux, avec sa lumière, avec son désir quand même, avec son étrangeté qui a peut-être amené le bazar dans le château, mais qui a aussi amené de l'air. Qui a amené du nouveau, qui a amené du mouvement. Tout le monde voulait se barrer, c'est bien qu'elle a créé du mouvement. C'est elle qui meurt.
Oui, et il n'y a pas qu'elle qui meurt.
Et il n'y a pas qu'elle qui meurt.
On l'oublie parfois.
C'est ravageur.
Oui, la pièce s'appelle Péléas et Mélisande et c'est aussi une histoire qui est peut-être le seul espoir qu'il y avait dans ce château qui se meurt, qui a été arraché. C'est ça aussi, quoi. Enfin, en tout cas, oui, je tiens à ça. C'est aussi ces deux jeunes amants, quoi, qui seulement une fois qu'il est trop tard. Se révèle leur amour. Enfin, il est toujours trop tard. On est ou trop en avant ou trop en retard. C'est assez terrible, oui, c'est vrai.
Vous disiez tout à l'heure que vous avez lu les pièces de Maeterlinck, pas toutes, mais en tout cas pour nourrir votre travail. Là, on entendait la composition de Gabriel Fauré. Il y a évidemment l'opéra de Debussy. Est-ce que ça a été aussi source de nourriture ou est-ce que, au contraire, pour une fois, d'une certaine manière, Maeterlinck était au théâtre? Vous avez fait du théâtre et c'était ça votre intérêt?
Bah, évidemment, la musique de Debussy. Elle est très belle, mais elle n'a pas été une source d'inspiration pour moi, au sens où elle a même été, je l'ai écoutée une fois, et puis voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'était important de s'en détacher. Et puis surtout, je vois pas bien ce que j'aurais pu. Je sais pas comment dire. La musique est belle parce qu'en même temps, elle fait sentir des paysages intérieurs. C'est ça que je trouve très beau. Je parle pas du chant, mais de la musique en elle-même, comme si on sentait le vent ou comme si on sentait des effets de prémonition ou de cœur qui s'accélèrent. Alors après, c'est à nous justement comment nous, avec nos moyens à nous, et ça peut être du son aussi, recréer ça, ou par les acteurs, ou comment travailler au fond sur le monologue intérieur, c'est-à-dire sur les paysages comme ça qui sont dépliés au fil des situations. Qu'est-ce qui se trame là maintenant ou qu'est-ce qui se prépare? Et donc le son a été précieux. D'ailleurs, on a fait tout un travail avec Quentin Dumel, créateur son. Le son a été précieux aussi pour ça, mais c'était d'une autre nature. Ça pouvait être des notes. Comment créer une forme d'atmosphère qui ramène aussi de l'étrangeté, qui fait que c'est pas seulement à l'acteur aussi de tout prendre en charge, mais que on sait bien la force de la musique ou en tout cas la force du son. Aussi, ça vient travailler
teinter,
sur l'inconscient,
quoi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire presque des sons, bah parfois des sons très clairs dans des transitions comme ça, mais des sons en même parfois fins ou lointains dont on n'est pas sûr qu'on les a entendus. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de sons en fait, mine de rien, dans ce spectacle. Ouais.
Quand vous dites que ce n'est pas ni que aux comédiennes ni aux comédiens de tout prendre en charge, ils font quand même ce grand travail de prise en charge du texte. Qu'est-ce que vous leur avez donné comme indication? Qu'est-ce qui a été au cœur de vos discussions autour de ce texte-là, qui n'est pas un texte simple, qui est à la fois très simple, vous le disiez, très concret, mais quand même qui est une drôle de machine?
Oui, bien sûr. Il y a plusieurs choses. On a même commencé par faire des improvisations. C'était important pour moi au début que les acteurs aillent à la rencontre du rôle, quoi. C'est-à-dire personnellement. Je veux dire avec leur imaginaire d'aujourd'hui, les êtres qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on commence pas par fabriquer des personnages au sens comme ça un peu fermé, quoi, du terme. Donc d'ouvrir, au contraire, d'ouvrir et d'aller à la rencontre avec leurs imaginaires. On pourrait dire d'un paysage. Chaque rôle, c'est un paysage en quelque sorte, une manière d'être. Et il y a eu tout un travail sur les situations. Hein. C'est ça qui, c'est quand même voir. qu'est-ce qu'il y a dans une situation, de qu'est-ce qui regorge là-dedans, qu'est-ce qu'il y a de soit d'imaginaire, soit d'image intérieure, soit d'idée, soit de pensée, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a quand Mélisande, d'un coup, se met à pleurer et dit « je sais pas, je suis souffrante en fait, je vais mourir si l'on me laisse ici ». Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'elle se raconte ou qu'est-ce qu'elle veut? Donc on travaille en même temps sur des choses très concrètes, on pourrait dire, c'est comme, faut toujours trouver des analogies avec la vie. Moi c'est ça qui m'intéresse et en même temps c'est comme ça que je travaille. La vie n'est pas plus simple que la pièce. La vie est tout aussi complexe. En réalité, on est toujours guidé, si on y réfléchit deux secondes, par des choses qui nous échappent, qui nous poussent. C'est d'où vient notre énergie, par où passent nos pensées. Voilà. Donc, le processus est le même.
Et l'inverse vaut. La pièce n'a pas à être plus simple que la vie. Vous le disiez tout à l'heure. Il faut vraiment que on sente que les origines des actions, des gestes, des sentiments et des sensations sont vastes, souvent indéterminées, compliquées, entremêlées. Oui. Donc, vous avez travailler comme ça à partir de cette ouverture là.
Oui, on parle toujours des situations, quoi, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les relie ensemble à tel moment, où est-ce qu'ils en sont. Où est-ce qu'ils en sont dans l'histoire? C'est aussi bêta, hein. C'est aussi bêta en quelque sorte. Mais évidemment qu'il y a une dimension magique. Évidemment que c'est important sur la scène de la fontaine, que c'est pas anodin que Péléas emmène Mélisande à la fontaine et que d'un coup ils se disent il y a un silence extraordinaire qui soit relié à quelque chose de magique et que c'est presque comme si le lieu magique en lui-même mettait de la magie entre eux. Mais on pourrait imaginer des choses similaires dans la vie. Deux amants qui iraient dans un lieu un peu caché, un peu étrange. Bon, bah, d'un coup, ça teinte leur situation. Donc c'est comme d'essayer de mettre à jour, au clair, de quoi est faite la situation. Et donc comment les êtres sont reliés les uns aux autres, parce qu'il faut quand même toujours comprendre pourquoi on parle en fait. Pourquoi on en vient à dire des choses comme ça.
Maeterlinck dresse son Péléas à l'origine dans un cadre pictural qui désigne la nature de partout et de nulle part. On ne sait pas si c'est forêt, grotte, fontaine, palais, tout le contraire d'un milieu. Quand son metteur en scène lui demande l'époque où la pièce se passe, il lui dit 11e, 12e siècle, ou bien selon Memling. Memling est au 15e, comme vous voudrez, et selon les circonstances. Ce qu'il voit des personnages, c'est une couleur générale, mauve de liberté pour Mélisande, vert pour Péléas. Il ne s'agit donc plus, comme vous le voyez, de figures déterminé, mais au contraire d'être symbolique, pour ainsi dire, d'effigie, disons plus exactement, qui se rencontrent, qui s'affrontent, se nouent et se dénouent, mais qui ne peuvent rien changer à ce que les jeux de l'amour et de la mort peuvent apporter dans la vie. L'essentiel de ce qui leur advient échappe à toute description.
Robert Abirached en 2005 sur France Culture, qui dit quand on demande à Maeterlinck, quand un metteur en scène, metteuse en scène demande à Maeterlinck mais quelle époque, il dit oui, bah 11, 12, 15, enfin, en fait rien ou tout, enfin je sais pas comment vous l'avez entendu vous, Julie Duclos.
Bah oui, c'est très beau, c'est très juste, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est très bien qu'il réponde comme ça, il a raison, c'est-à-dire effectivement c'est indéfini, de toute façon tout est toujours un peu indéfini, les frontières ne s'arrêtent jamais vraiment, donc c'est ça qui fait la force de son œuvre, c'est qu'elle est complètement intemporelle, et donc elle n'est pas marquée, c'est en ce sens que c'est pas une écriture politique comme on l'entendrait, avec des éléments qui rappelleraient telle guerre de telle époque, ça joue pas là-dessus, on parle de famine. De guerre imminente. Arkel dira, oui, de vieille guerre et de vieille haine. Bon, bah, on sent bien que ça fonctionne.
De paysans affamés.
De paysans affamés. Donc, on a un état du monde qui, quelque part, peut continuer de résonner comme ça dans le temps. C'est la force de l'œuvre et c'est ça la force des écritures aussi poétiques, hein, c'est qu'elles traversent le temps.
Et c'est un état que vous décririez comment? Est-ce que c'est un état comme un peu effondré? Vous parliez tout à l'heure de paysages intérieurs ou de paysages de ruines, comme en dépeigne un petit peu les images que vous choisissez. C'est cette sorte de quoi? Fin du monde ou de fin qui approche?
Oui, de fin qui approche, oui. Oui, il y a quelque chose des ruines, y compris le château lui-même, puisqu'il est question d'aller voir les lézardes comme ça dans les murs et les piliers des voûtes. Et Golo dit tout le château s'effondrera si l'on n'y prend pas garde. Le roi Arkel, il dit ça sent la mort, hein. Ils viennent sentir la mort. dans les sous-sols. Effectivement, on est dans une atmosphère de fin des temps, enfin imminente, puisqu'on a l'impression d'un château comme ça complètement isolé sur une île, et puis que comme si à la porte de ce château, comme quand Golo dira « on vient de trouver encore un paysan mort de faim », on a l'impression qu'il subsiste comme ça, cette famille, dans ce château. Il y a pour ça qu'il y a un côté Tarkovski, je trouve, ça joue sur les ruines, comme ça, où comme s'il restait plus grand monde.
Ils sont comme encerclés, quoi.
Ah oui, j'ai cette impression, moi. J'ai cette impression, oui, d'un monde qui reste, mais qui va plus tenir longtemps. Il y a une déliquescence.
Vous parliez tout à l'heure d'un face-à-face entre le très vieil homme et la plus jeune, presque la plus jeune, d'entre tous les êtres qui vivent au château. On entend un petit bout de ce face-à-face dans le dialogue entre Arkal et Mélisande.
Tu es arrivée ici toute joyeuse comme un enfant à la recherche d'une fête, et au moment où tu entrais dans le vestibule, je t'ai vu changer de visage et probablement d'âme. Comme on change de visage malgré soi, lorsqu'on entre à midi dans une grotte trop sombre et trop froide. Et depuis, à cause de tout cela, souvent je ne te comprenais plus. Je t'observais. Et tu étais là, insouciante peut-être, mais avec l'air étrange et égaré de quelqu'un qui attendrait toujours un grand malheur au soleil dans un beau jardin. Je ne puis pas expliquer. Mais j'étais triste de te voir ainsi. Car tu es trop jeune et trop belle pour vivre déjà jour et nuit sous l'haleine de la mort. Mais à présent, tout cela va changer. À mon âge. Et c'est peut-être là le fruit le plus sûr de ma vie. À mon âge, j'ai acquis je ne sais quelle foi à la fidélité des événements. Et j'ai toujours vu que tout être jeune et beau créait autour de lui des événements jeunes, beaux et heureux. Et c'est toi maintenant qui vas ouvrir la porte à l'ère nouvelle que j'entrevois. Viens ici. Pourquoi restes-tu là sans répondre et sans lever les yeux? Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois jusqu'ici, le jour de ta venue. Cependant, les vieillards ont besoin de toucher quelquefois de leurs lèvres le front d'une femme ou la joue d'un enfant pour croire encore à la fraîcheur de la vie et éloigner un moment les menaces de la mort. As-tu peur de mes vieilles lèvres? Comme j'avais pitié de toi ces mois-ci.
Grand-père, je n'étais pas malheureuse.
Peut-être étais-tu de celles qui sont malheureuses sans le savoir.
Il est incroyable ce face-à-face entre Arkal et Mélisande, c'est Philippe Duclos et Alix Riemer. Comment est-ce que vous décririez ce face-à-face, Julie Duclos? Qu'est-ce qui s'y passe pour les deux? Puisque vous dites, finalement, on travaille avec ce qui se passe dans les situations.
C'est drôle que ça tombe sur cette scène, parce que c'est une des scènes qu'on a le plus de mal à attraper en termes de situation. Bon, il y a des scènes plus ou moins simples, et c'est très étrange, quoi, la valeur de cette situation. Effectivement, bah, il y a toutes ces phrases sublimes de d'Arkal qui sortent pour beaucoup d'ailleurs du trésor des humbles, hein. C'est vraiment comme s'il était lui-même un peu Maeterlinck quand il parle. En même temps, on a fait tout un travail pour pas faire le vieux sage, c'est pas intéressant, ça fait une figure et c'est beau qu'il soit en rapport effectivement à cette jeune femme dont, si on reprend le cours de la pièce, ça arrive après, il y a une précipitation à ce moment-là, hein. On avance vraiment vers la fin, et la scène juste avant, Pélias lui dit « Bon, mon père s'est réveillé, parce qu'il y a un père mort, hein. Il y a un père qu'on ne voit jamais, mon père s'est réveillé, je vais partir, rendez-vous ce soir à la fontaine, oui, tu viendras », et il s'en va. Et la scène arrive après ça, c'est-à-dire que Mélisande, ça fait partie de sa situation aussi, d'être dans la résonance aussi d'une de ce départ de Péléas, même s'il dit toujours qu'il va partir. Mais il y a un effet quand même de précipitation, je trouve, à ce moment-là. Et donc, je trouve assez beau, puisqu'elle se tient en silence, ce mélange de lui qui peut-être pressent quelque chose et lui dit, bah, c'est bien, ça va aller mieux maintenant, le père s'est réveillé, ça va aller mieux. Et en même temps, il lui parle de ce qu'il a toujours senti d'elle, de sa mélancolie. Et dans cet instant-là, elle l'est aussi peut-être parce qu'elle sent que quelque chose là est en train de se précipité, on pourrait dire, ou de se préciser, peut-être. Enfin, voilà, il y a, en tout cas, tel que je le vois, hein, c'est des choses comme ça qui sont à l'œuvre entre eux. En tout cas, c'est un monologue. Comment ne pas le prendre comme un monologue, mais chercher l'endroit du dialogue silencieux, puisqu'il va finir par lui dire « Pourquoi restes-tu là, effectivement, sans lever les yeux ?» Donc, c'est important. Qu'est-ce que c'est cette écoute de Mélisande aussi Et c'est peut-être par l'écoute de Mélisande que lui continue à parler. Enfin, on est obligés, nous, de se confronter à des questions aussi concrètes que ça.
D'ailleurs, c'est comme s'il lui disait, c'est comme s'il lui racontait ce qu'elle a été jusqu'à maintenant. Moi, c'est aussi comme ça que j'ai entendu le moment où ça arrive. Et en effet, bon, voilà, on va pas tout dire, mais il y a des découvertes, on va dire, en gros, de secrets de famille, de choses cachées, etc. Et là, c'est comme s'il lui re-racontait. Alors voilà, on va se refaire le fil de l'histoire. T'es arrivée, t'étais une enfant joyeuse, pleine de lumière. On pensait que ça allait se passer comme ça, puis finalement, ton visage a changé. Comme notre visage change mystérieusement lorsque nous rentrons dans une grotte trop sombre à
tout
midi.
À fait.
C'est fou, quoi. Enfin, c'est oui, comme s'il lui racontait comment elle a changé de couleur.
Tout à fait, c'est un pur portrait. Si on le faisait au cinéma, moi je verrais vraiment un plan sur elle, assez serré, quoi, qui écouterait tout ça. C'est un pur, ou comme une peinture, quoi. C'est un pur portrait d'elle. Mais en même temps, ce qui est rigolo, c'est qu'il se trompe. Il dit des choses, des phrases comme ça, avec des effets un peu prémonitoires. Mais en même temps, il se trompe toujours, parce que c'est le moment où il lui dit, mais c'est bien, tout ça va changer. Il dit, quand on est jeune et beau, ça ne peut
amener
faire advenir que des événements jeunes et beaux, alors que elle a le corps de quelqu'un qui sait qu'on va à la catastrophe. Et c'est bien. Et la fin de cette scène, c'est Golo qui entre et qui dit Péléas par ce soir et qui aura cette espèce de sortie de route, en tout cas d'humiliation derrière, vis-à-vis de Mélisande. Donc la scène, elle s'inscrit aussi dans deux temps forts, on pourrait dire, celui de Péléas et celui de Golo. C'est comme une brèche. C'est vrai qu'il y a un temps un peu suspendu comme ça entre les deux, comme si d'un coup, effectivement, entre la jeune femme et le vieil homme pouvaient se dire des paroles très essentielles. Je trouve ça très beau, ça. Il y a un grand dépouillement, quoi, à ce moment-là.
Voilà.
Comme si on arrêtait l'action, un peu, en quelque sorte.
Dans la brèche, dans ce temps suspendu, et Julie Duclos, puisque vous parliez justement de cinéma, on écoute, à propos du temps, Chantal Akerman.
Ce que j'aimerais, c'est que le spectateur vive un temps. Si vous voulez, la plupart des films, qu'est-ce qu'on dit d'un film? C'est « Ah, c'était un film formidable, je n'ai pas senti le temps passer ». Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ce film? Eh bien, il y a une heure et demie de la vie de quelqu'un qui n'a pas senti ce temps passer, qui lui a été volé. Là, le spectateur est avec le temps du film et il sent son temps aussi à lui. Il se sent vivre avec le temps du film. Donc, on lui vole pas un temps. Et si vous voulez, la seule chose qui résiste et qui reste finalement, entre guillemets, révolutionnaire, c'est quand on demande au temps, aux gens de prendre du temps, de rester face à une image. Ça, c'est la chose, à mon avis, où ça résiste toujours.
2002, la voix de la réalisatrice Chantal Akerman au micro du Pop Club sur France Inter. Cette question du temps, qui est peut-être le geste le plus révolutionnaire, qui est la demande la plus osée que l'on puisse faire à nos spectateurs, nos spectatrices, nos auditeurs, nos auditrices parfois. Est-ce que vous la rejoignez? Vous dites souvent, Julie Duclos, que finalement ce que vous manipulez, c'est ça et presque que cela.
Mais bien sûr, c'est formidable de l'entendre parler et qu'elle puisse parler de ça pour un film, effectivement, et que c'est le propre aussi du théâtre, de manière encore plus folle, de réunir des gens dans un temps commun, puisqu'il y a des êtres vivants sur le plateau, ce qui est le contraire du cinéma. On sent bien qu'au cinéma, on peut quitter la salle, partir, revenir. On sent bien que c'est pas le même rapport, mais d'un coup, convoquer des gens dans un temps commun, c'est quand même la spécificité du théâtre, quoi. Et donc, du coup, ça, c'est des grands moments pour moi, même dans des spectacles qui vont me nourrir ou que j'aime, ou de finalement, quand les artistes arrivent à ça, à ce
où
que...
Vous êtes spectatrice.
Oui, quand je suis spectatrice, mais on pourrait dire, du coup, je suis faite de... En tout cas, c'est ce qui m'attire aussi, ce que permet Maeterlinck, mais d'autres écritures aussi bien. Je crois que dans tout ce que je cherche au théâtre, il y a quelque chose de ça, du temps. Et c'est pas prendre du temps, C'est pas amener une temporalité, c'est pas que ce soit plus lent, mais c'est un certain temps qui fait qu'on sent les minutes communes. Et ça, on se souvient. Je crois que souvent, quand on se souvient de moments au théâtre, de choses qu'on a vues, ça a à voir avec le temps. Ça s'imprime en nous comme un souvenir, et ça a à voir avec le, au fond, quelques secondes où on serait tous là présents, quoi. Et ça, on est en plein dans Maeterlinck parce que la mort, elle est toujours là. Elle est complètement dans la vie, sur le temps de l'existence, quoi. On est toujours dans cette question-là. Des minutes qui passent et on n'attrapera jamais l'instant. On est toujours comme projeté soit dans l'avenir, soit dans le passé. Donc, qu'est-ce que c'est que le présent? Comment ça s'attrape? Et je crois que le théâtre est un des outils pour ça, et que tout mon travail, finalement, ne cherche que ça, même avec les acteurs. C'est banal ce que je dis, mais c'est la question du présent.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y a quelque chose de beau entre Arkel et Mélisande dans ce passage qu'on entendait, c'est que c'est parce qu'il y a une brèche que se disent des choses essentielles. Vous avez l'impression que ça peut être un endroit de brèche dans nos temporalités. Là, je reviens à des choses peut-être plus prosaïques, Julie Duclos. C'est cette brèche du théâtre ou du moment passé ensemble où on va peut-être se redire ou se dire pour la première fois, ou entendre nouvellement des choses anciennes, est essentiel.
Ben, c'est ça, je crois, effectivement. Oui, complètement. C'est-à-dire, c'est un temps commun. C'est ça qui est intéressant, c'est que d'un coup, ces moments où ce qui se passe sur le plateau n'est pas plus faux que moi, spectatrice. On a la même réalité, en fait. C'est finalement toute ma recherche avec les acteurs, même l'idée que Nantes soit aussi réelle. Donc ça va envelopper être réel avec son partenaire, parler vraiment à l'autre, mettre un enjeu réel entre nous, enfin toute cette chose là que je cherche, moi, dont j'ai besoin. Je crois que c'est pour obtenir finalement ce type de sensation comme spectateur, qui est que il n'y a pas on pourrait dire un quatrième mur avec soit de la littérature, soit une fiction comme ça qui court, et puis nous comme dit Ackermann, alors on en oublierait notre vie, c'est bien, j'ai oublié, je suis rentrée dans l'histoire. Non, je crois que c'est intéressant, cette chose un peu folle qui serait que d'un coup, l'histoire est aussi à autant de réalité que nous, spectateurs, quoi. Donc ça, j'aime bien. Ça crée aussi même un trouble sur les frontières entre le vrai, le faux. C'est comme plus la question. D'un coup, oui, le temps commun. Je crois que c'est ça qui est le plus intéressant.
Merci beaucoup, Julie Duclos. Péléas et Mélisande de Maeterlinck, ça se voit donc jusqu'au 21 mars aux Ateliers Berthier du Théâtre de l'Odéon à Paris, ensuite au Célestin à Lyon du 25 au 29 mars, les 2 et 3 avril à Saint-Quentin en Yvelines, et peut-être même plus tard après.
Oui, ce sera repris la saison prochaine.
Merci à vous.
Flowers glowing, watches or boulders after scenes. When you cry, 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 baby.
Maeterlinck qui rencontre Coldplay sur France Culture. À la réalisation, c'était Charlotte Roux. Ce soir, Sylvain Latue à la prise de son. Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Julie Ascal, Marianne Chassor, Jeanne Aléos. C'est aussi une page sur franceculture.fr, une petite enveloppe pour nous écrire, merci pour vos messages, et un podcast via, par exemple, l'application Radio France. Dans un instant, c'est le journal sur France Culture, 22h, très belle soirée à toutes et à tous.